le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Un podcast un peu particulier ce mercredi matin. Dans 100 jours, très exactement, ce sera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. On va donc faire le point, au niveau sportif comme au niveau de l'organisation. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ce mercredi, on est très exactement 100 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Joël Meskens, notre envoyé permanente dans la capitale française, a été à la rencontre des habitants pour connaître leur point de vue sur l'événement. Pour vous donner un ordre d'idée, elle a rencontré 30 personnes qui n'avaient pas prévu de fuir la capitale. Sur ces 30, moins de 5 semblaient enthousiastes par rapport aux Jeux Olympiques. Camille Linden a appelé Joël pour prendre la température de l'état d'esprit des Parisiens.
Bonjour Joël.
Bonjour Camille.
Vous avez fait un tour de Paris à 100 jours des JO. Quelle atmosphère y avez-vous ressenti ?
L'atmosphère n'est pas à la ferveur, hein. Il faut bien l'admettre. Je me suis promenée dans la plupart des grands lieux qui accueilleront des compétitions pour les Jeux Olympiques, donc au cœur de Paris, le long de la Seine, au Trocadéro, au Champ de Mars, à la Concorde, aux Tuileries. Et partout, c'est plutôt un sentiment de résignation et même d'inquiétude, je dirais, par rapport à ces Jeux Olympiques. Très peu d'enthousiasme. Pour avoir une idée, simplement, j'ai dû parler à une trentaine de personnes et sur ces 30 personnes, à peine 5, grand maximum, ont montré un véritable enthousiasme et encore modéré par rapport à ce qu'on peut attendre d'un tel événement mondial. Donc beaucoup d'inquiétudes et aussi beaucoup de gens m'ont dit que tout simplement ils ne resteraient pas pendant cet été, ils quitteraient Paris à tout prix pour éviter ce qu'ils appellent le grand boxon, le grand désordre qu'ils attendent de ces Jeux Olympiques.
Vous l'avez dit, beaucoup ont l'intention de partir. Parmi ceux qui restent, les inquiétudes sont multiples. Qu'appréhendent-ils ?
Beaucoup de choses, mais les inquiétudes se rejoignent. Il y a d'abord une très grosse inquiétude par rapport à la sécurité de ces Jeux. Vous savez qu'il y a une cérémonie qui est une première dans l'histoire qui est prévue le long de la Seine sur 6 kilomètres. Une centaine de bateaux devraient emmener les délégations olympiques pour finir devant le Trocadéro, devant les chefs d'État qui seront rassemblés. Mais c'est un scénario qui est très très difficile à sécuriser parce qu'il y a évidemment des centaines d'habitations le long de la Seine et il faut éviter évidemment que ces habitations soient infiltrées par des snipers ou des gens qui souhaiteraient commettre des attentats. Donc il y a une inquiétude qui s'exprime au niveau des Parisiens par rapport à cette question de la sécurité. Une autre question très importante est celle du transport. Énormément de gens redoutent une énorme affluence dans le métro. Vous savez que déjà en ce moment, prendre le métro à Paris, c'est assez galère parce qu'il y a des tas de lignes qui sont fermées. Il y a une très grande affluence parce qu'on manque de personnel dans les services de transport depuis le Covid. On n'a pas réussi à réembaucher, donc il y a moins de métros qui circulent, donc les métros sont bondés, donc les gens redoutent que ce soit encore pire avec les Jeux Olympiques. Et puis il y a aussi une inquiétude concernant la circulation. Dans les périmètres centraux où auront lieu des compétitions, il faudra présenter un QR code, et ça rappelle évidemment aux Parisiens et même à tous les Français un épisode qui a été vécu durement ici, c'est évidemment les confinements durant l'épidémie de Covid, où il fallait présenter un QR code pour entrer dans certains établissements, ou des fameux passe qu'il fallait présenter aussi pour circuler une heure par jour dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile.
Ils sont donc nombreux à craindre une menace sécuritaire. Emmanuel Macron a récemment évoqué un probable plan B, voire plan C, concernant la cérémonie sur la Seine. Cette dernière est-elle si difficile à sécuriser ? La peur généralisée est-elle fondée ?
Alors, il y a un risque d'attentat qui existe depuis plusieurs années. La France a évidemment connu plusieurs vagues terroristes très importantes et la menace n'a jamais véritablement baissé. Les services de sécurité n'ont jamais été en veilleuse et la sécurité a même été renforcée depuis le récent attentat de Moscou. Mais il n'y a pas non plus de menace caractérisée contre ces Jeux Olympiques. Ça veut dire que les organisations terroristes n'ont pas ciblé particulièrement ces Jeux, n'ont pas dit on va frapper durant ces Jeux. Mais évidemment, c'est une vitrine pour le monde entier. Donc on s'attend à ce que ce soit une cible possible, évidemment, pour les terroristes et pour la cyber aussi, les cyberattaques aussi, qui sont très redoutées. Donc, la menace, elle est sérieuse. Et maintenant, encore une fois, la sécurisation est très difficile le long de la Seine. Il faut aussi fouiller tous les participants. On est déjà passé d'une jauge de 600 000 spectateurs qui avait été imaginée à 300 000 seulement, mais il faudra aussi les fouiller, etc. Et ce seront des gens qui seront finalement invités, donc ce ne sera pas n'importe qui pourra accéder à cette cérémonie. Et donc, si la menace devenait trop sérieuse à l'approche des Jeux, à ce moment-là, on se rabattrait sur un plan B ou un plan C. Ce plan B, ça pourrait être raccourcir encore le périmètre concerné par la cérémonie, et donc faire l'essentiel de la mise en scène devant le Trocadéro. Et si même ça, c'était trop compliqué à sécuriser, si la menace était tellement forte, on rapatrierait à ce moment-là la cérémonie d'ouverture au Stade de France, dans un périmètre donc fermé. Mais ça poserait aussi des difficultés parce que tout simplement, il y a des compétitions sportives qui sont censées démarrer avant la cérémonie d'ouverture. Donc ça poserait un problème logistique important.
La désignation de Paris pour l'organisation de cette édition des JO date de 2015. Cela fait 10 ans. À l'époque, la population se réjouissait de l'événement, mais aujourd'hui, ils n'en veulent plus trop. Que pouvez-vous me dire sur ce décalage ?
Oui, c'est vrai. En fait, quand Paris a postulé pour organiser ces Jeux Olympiques en 2015, il faut dire qu'elle avait déjà échoué deux fois consécutivement à organiser les Jeux Olympiques. Elle n'avait pas été choisie. Et il y a eu une longue réflexion pour organiser ces Jeux. Et finalement, ce qui a un peu pesé dans la balance, c'est justement des attentats qui avaient eu lieu cette année-là. C'était en janvier 2015, l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo et l'attentat contre l'hypercachère, l'attentat antisémite de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Et je me souviens d'avoir rencontré la maire de Paris à l'époque qui disait, eh bien finalement, ce qui m'a convaincue de vouloir organiser ces Jeux, c'est une envie de résilience par rapport à ces attentats, de vouloir se relever après l'épreuve qui avait été vécue. Et finalement, on est aujourd'hui près de 9 ans plus tard et le contexte a changé. Bien sûr, la menace terroriste est toujours là, on en a longuement parlé, mais il y a d'autres choses qui concernent les Français, les Parisiens aujourd'hui, qui les inquiètent, et notamment le pouvoir d'achat qui a tout enseveli, ces préoccupations-là sur l'inflation. Les gens n'ont plus la tête tellement à la fête. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé disent « c'est pas mon sujet de préoccupation, mon sujet de préoccupation premier, c'est de savoir ce que j'aurai dans mon frigo à la fin du mois ».
Au final, y a-t-il tout de même des gens impatients à l'approche des JO ? L'événement va également apporter du positif pour la population, non ?
Alors oui, il y a des gens qui sont enthousiastes et ce qui m'a frappé dans ce petit coup de sonde que j'ai fait dans Paris et en Seine-Saint-Denis, c'est deux choses. D'une part, l'enthousiasme est plus important chez les touristes étrangers. En fait, les touristes étrangers qui ne vivent pas ces tracas au quotidien, des transports, etc., ceux-là admirent Paris, trouvent que c'est la plus belle ville du monde. C'est d'ailleurs la ville qui a le grand nombre de visiteurs chaque année. Et donc ces touristes disent, mais ça va être formidable, quelle image pour Paris, cette belle ville, on ne comprend pas pourquoi les Parisiens ne sont pas plus enthousiastes. Et puis les autres qui sont les plus intéressés, les plus motivés, sont souvent ceux que l'on retrouve en Seine-Saint-Denis, où auront lieu pas mal de compétitions, et finalement qui vont profiter de l'héritage de ces Jeux Olympiques. Il y a tout de même des infrastructures qui ont été construites, je pense au centre aquatique, en face du Stade de France, un immense bassin qui servira de piscine pour les habitants de la Seine-Saint-Denis dans les années qui viennent. C'est pas du tout anecdotique parce que les gens des banlieues en général, les enfants des banlieues savent beaucoup moins nager que le reste de la population française parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure de natation à proximité de chez eux. Et donc ça, ce sera un plus pour la Seine-Saint-Denis. Les gens reconnaissent cela. Et puis il y a évidemment les édiles, les responsables politiques de la Seine-Saint-Denis, notamment le maire de Saint-Ouen qui est extrêmement enthousiaste par rapport à ces Jeux, qui dit lui que ça va très très bien se passer, et puis surtout qui voit le bénéfice que sa ville de Saint-Ouen va tirer de ces Jeux Olympiques. Il y aura des centaines de logements qui vont pouvoir servir de logement social après les Jeux Olympiques, quand le village olympique qui va accueillir les athlètes sera transformé en immeuble d'habitation. Donc il y a des gens qui voient le bénéfice que ces Jeux peuvent apporter, mais d'une façon générale aussi, ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup d'observateurs notent que cette réticence, un peu ce manque de ferveur de Paris n'est pas si particulière que ça a souvent été le cas. Des villes qui organisaient les Jeux Olympiques plusieurs mois avant, on redoute un peu cet événement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, etc. Et puis une fois que la flamme arrive, une fois que la fête commence, une fois que les premières médailles sont engrangées, et bien finalement le pays est embarqué. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer pour cet été pour la France.
Merci Joël.
Merci Camille.
On va aussi faire le point sur les chances de médailles des athlètes belges. Après avoir remporté 6 médailles à Rio et 7 à Tokyo, la Belgique fera-t-elle mieux cet été? Sur quels sportifs reposent les principaux espoirs de notre pays? Et plus largement, quelles sont les performances qu'il ne faudra surtout pas rater? Julien Cambier en parle avec Philippe Van de Weyer, journaliste au Pôle Sport et spécialiste des sports olympiques.
Bonjour Philippe.
Bonjour Julien.
Alors, est-ce que tous nos athlètes ont décroché leur ticket pour les JO de Paris ou reste-t-il encore des incertitudes?
Alors non, tout le monde n'est pas encore qualifié, loin de là, à commencer par notre athlète la plus célèbre, Nafi Thiam, double championne olympique, qui doit encore réussir le minimum à l'heptathlon. Elle doit réussir un total de 6480 points, ce qui ne devrait pas poser de problème normalement, mais voilà, on se rapproche maintenant de l'échéance et elle va tenter le tout pour le tout lors des championnats d'Europe à Rome au début du mois de juin. Sinon aussi dans plusieurs sports, les équipes doivent encore être composées dans les sports collectifs, mais aussi en cyclisme. On sait qu'on a 4 places à attribuer, mais qui va y aller? En principe, nos stars y seront, mais rien n'est encore assuré. Mais voilà, on espère avoir plus ou moins 150 à 160 sélectionnés à Paris, ce qui sera la plus grosse délégation belge de l'après-guerre.
6 médailles à Rio, 7 à Tokyo, peut-on espérer que la Belgique continue sur sa lancée et fasse encore mieux à Paris?
C'est l'objectif avoué du comité olympique belge. On attend environ une dizaine de médailles, ce qui me semble être un bon calcul. On a beaucoup de potentiel qui au niveau mondial dans leur sport se situe au sommet et peuvent raisonnablement espérer une médaille. Je pense aux deux équipes de hockey par exemple, aux Belgian Cats en basket, hein, elles sont championnes d'Europe. Je reviens naturellement sur Nafi Thiam qui, si elle se qualifie, figurera évidemment parmi les favorites à l'heptathlon. Toujours en athlétisme, le 4x400 mètres mixte, si on peut aligner notre meilleure équipe. En cyclisme, si nos athlètes reviennent en forme, bien sûr, on a une équipe très très compétitive avec Remco Evenepoel qui s'alignera tant sur la route que dans le contre-la-montre, Wout Van Aert. Et chez les femmes, Lotte Kopecky, évidemment, la meilleure coureuse au monde pour l'instant. Je pense aussi à l'équitation. En jumping, on avait pris une médaille par équipe il y a 3 ans à Tokyo. En judo, Mathias Kass est en train de monter en puissance. Il avait obtenu une médaille de bronze à Tokyo. Voilà, il est maintenant numéro 1 mondial. Son grand objectif, c'est de devenir champion olympique, ce qui ferait sans doute de lui le plus grand judoka belge de l'histoire. En voile aussi, avec Emma Plaskaert, en taekwondo, avec la jeune Sarah Chary. Et on ne sait jamais, en gymnastique, il faut voir comment Nina Derwal va revenir après sa grosse opération à l'épaule. Mais voilà, elle s'est déjà qualifiée, ce qui est une performance, et on connaît en tout cas sa détermination. Elle ne sera sans doute pas très très loin du podium non plus.
Et en parlant de blessures, Remco Evenepoel et Wout Van Aert sont récemment blessés. Peut-on encore espérer des médailles de leur côté?
Dans leur malheur, je dirais qu'ils ont eu la chance de se blesser relativement tôt dans la saison par rapport au jeu. Donc ils ont l'occasion, avec leurs blessures, de pouvoir se remettre. Si ça s'était passé en mai ou en juin, là c'était évidemment peine perdue. Ici, voilà, ils seront sans doute tous les deux au Tour de France. Ils ont dû décaler un peu leur programme, enfin, en tout cas Van Aert. On verra au Tour de France comment ils tournent, mais connaissant leur résilience, leur faculté de résilience, je pense qu'on peut les attendre, en tout cas tout près de leur meilleur niveau. Oui.
À Tokyo, Nurwitz avait été la bonne surprise des JO avec une 4e place inattendue en heptathlon. Cette année, est-ce que des outsiders potentiels se trouvent dans la délégation belge? Qui pourrait incarner ce genre de bonne surprise?
Oui, il y en a plusieurs dans des sports comme l'escrime avec Nesser Loyola qui, dans un bon jour, peut vraiment atteindre le podium. C'est aussi le cas de notre spécialiste du kayak, Arthur Peters, qui est actuellement dans le top 10 mondial et dans un bon jour peut certainement s'approcher des médailles. Je pense aussi au nageur Lucas Envaux qui a fait 5e au dernier championnat du monde sur 400 mètres libres en natation et qui lui aussi plein d'ambition et en progrès constant et pourrait lui aussi en tout cas se rapprocher du podium.
Il y a un peu plus de 8 mois, le bureau de statistiques américain Grace Note prédisait 13 médailles pour la Belgique. À 100 jours du début des JO, est-ce que ces prévisions sont réalistes?
13 médailles, cela me semble un peu optimiste. Je pense que on peut sérieusement envisager de faire mieux qu'à Tokyo, où on avait eu 7 médailles. À mon avis, entre 7 et 10, je pense qu'on peut vraiment espérer réussir ce total de médailles et voilà, réussir de nouveau le meilleur bilan de l'après-guerre. Ce qui confirmera en tout cas la montée du sport belge de haut niveau depuis 3 Jeux olympiques, hein, on se souvient. Bien qu'à Rio déjà, on s'en était très très bien sorti avec ces 6 médailles. On a encore fait mieux à Tokyo et je crois qu'on est sur une pente ascendante avec des sportifs de plus en plus performants dans beaucoup de disciplines. On sent aussi que les Belges par rapport à il y a quelques années ne vont plus au jeu simplement pour y aller, ils y vont pour performer, pour réussir le meilleur résultat de leur carrière, et certains ont clairement des ambitions bien avoué de monter sur le podium, ce qui est, je trouve, une bonne mentalité.
Et si on s'intéresse aux autres pays, quels seront les sportifs qu'il ne faudra pas rater ? Est-ce que des performances du genre de celle du Usain Bolt ou Michael Phelps sont attendues cette année ?
Des performances de ce niveau de ces deux champions, je ne pense pas, mais les meilleurs sportifs de la planète seront là. Alors, on peut commencer par le sport olympique numéro 1, l'athlétisme. Si vous regardez les derniers championnats du monde, on comptera évidemment sur Noah Lyles, le sprinter qui rêve du doublé 100-200. Il y a toujours notre ami Mondo Duplantis à la perche qui n'arrête pas de battre des records du monde et qui n'aura sans doute pas beaucoup de concurrence pour conserver son titre de Tokyo. En sprint féminin, vous avez l'américaine Shakari Richardson contre les Jamaïcaines sur 100 mètres. C'est sans doute un duel qui vaudra le détour. Ainsi que, si elles courent toutes les deux le 400 mètres haies, si l'américaine McLaughlin est bien là, j'attends avec impatience son duel avec la néerlandaise Femke Bol. Alors en natation, qui est le deuxième sport olympique, je crois que l'homme le plus attendu de ces Jeux, surtout pour les Français, ce sera Léon Marchand qui a vraiment éclaté depuis 2 ans et qui est incontestablement pour l'instant le numéro 1 toute catégorie. Bon, j'attends qu'il y ait des grosses performances dans les deux épreuves de 4 nages sur 200 et 400. Il y a évidemment le basket avec les stars de la NBA, les Américains qui arrivent avec une très très grosse équipe. Et alors en tennis, est-ce que Djokovic va enfin arriver à décrocher ce titre olympique ? En judo aussi, les Français comptent beaucoup sur Teddy Riner qui pourrait gagner sa 3e médaille d'or olympique. Et en cyclisme, nos Belges devront se débarrasser de Tadej Pogacar, ce qui ne sera sans doute pas la plus facile des choses.
Merci Philippe.
Avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.